Merci de supporter notre podcast. Si vous voulez vous procurer une copie du livre « D'endetté à millionnaire », quand même vendu à plus de 25 000 copies, oui, oui, un best-seller, vous pouvez aller sur votreconseiller.net, 7,95 $, vraiment pas cher. Donc, gâtez-vous. Merci pour votre support.
Bon, ben, wow, je vais faire la petite intro qu'on fait d'habitude. Bienvenue tout le monde dans le podcast du Trio économique. Vincent est là, Yann est là, tout le monde est là pour commencer.
Pour vous accrocher, gardez une chose en tête, aujourd'hui on parle de bang.
Ouais, c'est ça. Là, les gens ne comprennent pas de quoi qu'on parle, mais on a faut composer avec des contre-indications. Hein. Vincent, il y a sa série de sujets qui est comme une espèce de blacklist. Là. On ne peut pas en parler, puis il ne faut pas en parler. C'est pour ça qu'Yann va sûrement le faire. Parce qu'Yann, il y a un trouble de l'opposition, c'est ça qu'il faut comprendre. Là. Ça a été diagnostiqué dans les dernières semaines. Ça, c'est que quand on. Dans le développement de l'enfant, on pourra parler de ça à un moment donné. Il y a une phase de manée où tu restes tiqué là-dessus, je pense.
Une enfance très pénible.
Ouais, ça.
Pour tes parents, ça... pour toi.
Arrête, c'est super facile à gérer. T'avais juste à tout m'interdire et j'obéissais. J'ai développé mon trouble de l'opposition de cette façon-là.
Ouais. Vincent, justement, avant qu'on commence, t'es en train de nous expliquer que les. Les gens, soit habituellement, ils t'adorent, soit ils te détestent. Fait que c'est ça, il faut composer avec ça aussi. Là. Tu laisses personne indifférent de ce que j'ai compris. Là.
Ouais, ben, c'est pas une mauvaise chose. Hein. À un moment donné, essayer d'être tout le temps aimé ou de tout le temps déplaire, parce que t'en as du monde qui sont comme ça, c'est vraiment improductif. Si tu essaies juste d'être toi-même et de faire tes affaires comme il faut, il y a du monde qui vont t'haïr, il y a du monde qui vont s'en foutre, il y a du monde qui vont t'aimer, puis il y a personne qui va faire comme «
eh ». Oui, puis si je veux rajouter de quoi là-dessus, tu sais, on dit tout le temps, c'est dur de se rappeler de ses mentries, mais c'est tellement vrai dans un sens que la plupart des gens qui sont fake ou qui essaient de jouer un personnage qui est fake, le problème, justement, c'est qu'ils finissent par oublier c'était quoi le personnage exactement ou qu'est-ce qu'ils ont déjà dit dans le passé. Mmh. Alors que quand tu fais juste dire exactement ce que tu penses ou la vérité, écoute, tout devient extrêmement facile à gérer dans ta vie parce que c'est vraiment facile de se rappeler de la vérité. C'est pas un concept qui est si difficile que ça à comprendre.
Puis, mais en fait, tu te poses, c'est possible que ta vérité, qu'est-ce que toi tu penses être une vérité est faux, c'est juste que t'es de bonne foi à propos de ça. Là. T'as pas menti sciemment. Ouais, non. T'es juste « Ah, je savais pas que j'étais con.
» Ouais, ça, il y a de ça un peu, mais la game, c'est que dans les médias, la plupart des gens, en ayant peur de déplaire, ne disent pas exactement ce qu'ils pensent. Ils vont dire une version édulcorée de ce qu'ils pensent pour être sûr qu'il y ait personne qui soit pas content. Fait que ça donne, oui, des choses qui sont édulcorées, qui sont beaucoup plus plates d'un certain sens, mais ça fait aussi qu'en disant jamais exactement ce que tu penses, ben, tu finis par dire son contraire à un moment donné. Tu sais, tu ne peux pas te rappeler de tous tes mensonges, tout ça. Tandis que quand tu vises juste l'authenticité puis de dire exactement les choses comme tu les vois ou tu les perçois, la seule chose qui peut faire en sorte qu'un jour tu dis le contraire de ce que tu as déjà dit, c'est que tu as eu carrément une évolution dans ta pensée. Puis que là, c'est le facteur temps qui vient que tu dis quelque chose de différent. Mais encore là, c'est correct, ça, là, c'est ce qu'on veut.
Ouais. Mais ça, c'est gossant. Il y a une certaine partie des gens qui font ce type de critique-là, des fois. Là. Mettons, ils vont t'écrire un email, ils vont dire « Ouais, j'ai écouté un podcast que tu as fait il y a 2 ans et demi, puis tu as dit de quoi, puis dans le dernier que tu as fait, tu as dit quelque chose qui est comme un peu contradictoire avec ça. » Tu dis « Ben oui, mais c'est parce que depuis 2 ans, moi j'ai lu, je sais pas, moi, 600 livres là, qui parlaient de l'affaire que je t'emprunte de parler, puis que ma vision des choses par rapport à ça, elle a comme évolué. » Puis des fois, ben, tu t'en rappelles pas tout le temps. Tu sais, si on faisait l'exercice d'écouter ce qu'on disait tout un chacun ici, là, il y a 5 ans, 10 ans, on se rendrait compte que, ah ben ouais, finalement, dans ce temps-là, je pensais ça. Pourquoi je pensais ça? T'sais? Des fois, on ne s'en rappelle même plus non plus. Là. Je pense qu'à un moment donné, tu ne peux pas être tenu tout le temps, tu ne peux pas tout le temps tenir rigueur à tout le monde qu'à un moment donné, ils ont dit une affaire, puis à un moment donné, ils ont dit d'autres choses. En dedans de 2 semaines, je peux comprendre. Mais en dedans de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je pense que c'est normal à un moment donné d'évoluer sur certaines positions puis de clarifier certaines affaires. Puis des fois aussi, en écoutant des podcasts un peu comme on fait, tu t'éduques sur certaines affaires. J'aime pas ça, ce mot-là, là, parce que ça fait prétentieux, mais tu t'informes sur certaines choses. Puis des fois, tu dis, ouais, ben, tu sais, j'ai toujours pensé que, mettons, je sais pas, moi, on a fait un podcast une année sur l'immigration. Ben, des gens qui ont toujours pensé qu'il y avait un coût social à l'immigration plus grand que le bienfait que ça peut apporter, ben, maintenant, tu peux changer d'idée parce que tu te rends compte que ce que tu croyais est tout simplement erroné. Là,
non, mais je crois ça qu'on s'éduque en écoutant le trio économique. Toutes les références que Vincent il donne, je connais personne là-dedans. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il invente des noms. Là, fait que c'est sûr qu'on apprend quelque chose.
Hey, je ne sais pas quoi te rajouter à ça.
Oh là là.
Yes.
Bon, fait, quel sujet vous voulez commencer là?
Ben, moi, j'avais proposé en fait l'article que tu avais coécrit là, pour le Fraser où on parlait de la mobilité sociale. Mais non, c'est pas vrai. Non, je t'en mets
juste. Juste pour finir l'histoire des bangs, c'est un auditeur qui nous a envoyé une recherche sur une théorie sociale. Un peu pour remplacer le communisme. Puis, dites comme ça, ça ressemblait à un bang. Puis, tu sais, je ne l'ai pas lu, honnêtement. Francis, super gentil de nous avoir envoyé ça. J'ai soumis l'idée à Vincent. Et ça a été un no-no. Je ne parle pas de ça. C'est un philosophe qui commence à faire de l'économie. C'est all bullshit. Il devrait rester dans le champ de compétences. Puis là, il s'est mis à bitcher Frank dans mon dos, mon gars, sans non, je sais pas. Fait que c'est un no-go. On ne peut pas parler de bang du tout.
On peut parler de. Des bangs de chez Tim Hortons, ça c'est super correct. Mais en gros, la théorie de cette dame-là, qui est Radworth, son idée, c'est que l'économie, c'est comme un bang. L'extérieur et t'as l'intérieur. L'extérieur, c'est la partie du bang parce que quand on croit, ben, il faut que tout soit uniforme, comme un cercle. Un cercle ne doit pas avoir d'indentation sur le cercle. Et si tu as de la croissance vers l'extérieur, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que tu respectes l'environnement, la nature, puis il y a des dimensions, des portions de la partie externe du cercle, comme l'eau, la qualité de l'air, la qualité des changements climatiques. En même temps, comme n'importe quel bang, tu dois aussi garder le ratio avec le trou du bang en soi. Et là, elle, ce qu'elle met, c'est qu'elle fait l'autre partie du cercle. Puis à l'intérieur du cercle qui fait le trou du bang, tu as les justice sociale, respect des gens, dignité, des aspects comme ça. Et l'idée, c'est que la croissance doit garder un aspect balancé entre le ratio des deux cercles à toute fin pratique.
Bon, tu avais raison, c'est de la pure cochonnerie.
Ben, c'est ça, cette théorie. C'est plus de la métaphysique que d'autres choses, en fait. Là, ça se base sur rien, cette
affaire. C'est hyper normatif. Mais l'affaire, c'est que ça vient avec plein de jugements de valeur. Par exemple, tu as toujours la chose que tu as des philosophes qui font ça, puis tu le vois aussi dans les discours. Parce que des fois, les idées des intellectuels finissent malheureusement par transpirer sur la place publique. Tu as souvent le discours.
Ben, c'est ce qui arrive, je pense, avec elle, je ne me trompe pas, parce que de ce qu'on dit, c'est que sa théorie gagne quand même en popularité dans plusieurs sectes de gauche, là, de ce côté-là.
Oui, ben en fait, tu le vois des fois, j'entends des morceaux des fois quand j'écoute, malheureusement, les rares fois que j'écoute les nouvelles au lieu de lire un livre, parce qu'on se rappellera que je n'aurais pas dit aux auditeurs que votre meilleure utilisation de votre temps, ou même si Yann est à Radio X, tout ça, c'est de prendre un magazine ou un journal dans lequel on peut accéder à des connaissances générales et des livres, vous allez apprendre plus qu'en écoutant TVA ou en lisant le Journal de Montréal. Ceci dit, les quelques rares fois que j'ai brisé mon propre conseil puis que j'ai consulté, parfois j'ai pu voir des gens qui disent ce que cette dame-là semble dire. Et ça revient à vraiment cette idée que, par exemple, une espèce de mauvaise conception que la croissance économique, c'est pas l'entièreté des choses qu'il y a sur Terre. Alors qu'en réalité, par exemple, quand on regarde la croissance du PIB puis en corrélation, par exemple, juste avec le temps de loisirs que les gens ont, la croissance du revenu des gens donc, c'est ce que la croissance en général bénéficie aux plus pauvres? Est-ce que ça vient avec des augmentations d'espérance de vie? Est-ce que ça vient avec des réductions dans la mortalité infantile? Tu regardes plusieurs dimensions, même des fois, par exemple, la consommation de déchets, des pays qui, bon, jusqu'à un certain point, vont produire plus de déchets en termes de revenus, mais après, à un certain point, vont commencer à en produire moins. Même chose, par exemple, avec les forêts. Par exemple, écoute, on l'entend souvent dans l'empreinte écologique, mais il y a un gars qui est dans le journal Plus One, qui est un journal de biologie, a regardé les différentes composantes de l'empreinte écologique, donc à quel point l'espèce humaine a des effets négatifs. Et ce qu'il montre, c'est que sur 4 des 6 dimensions de l'empreinte écologique, il y a des gains, et les gains sont largement déterminés par les pays les plus riches. Clairement, l'amélioration de l'environnement, par exemple, vient de la croissance économique.
C'est quelque chose qu'on a dit souvent ici, Vincent, quand on dit tout le temps, on revient tout le temps un peu là-dessus, mais le plus pauvre des Canadiens vit comme un roi d'il y a 200 ans.
Ben, oui, puis non seulement ça, mais il y a tellement d'erreurs dans ces affaires-là. Écoute, le problème, c'est que tu as beaucoup de gens que ce qu'ils voient quand ils font ces affaires-là, comme l'affaire du bain, c'est qu'ils ont une conception de qu'est-ce qui est bien selon eux. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien selon les gens sur le terrain. Par exemple, si tu demandes souvent, bien, toi, dans un pays pauvre, est-ce que tu préfères 1% plus de revenus avec, disons, par exemple, une petite perte de qualité sur X ou Y dimension de qualité de vie, ils vont faire ce choix-là. Et c'est seulement quand ils vont être très, très riches qu'ils vont changer de choix. Donc, ils vont dire, ben, à ce point-ci, par exemple, je préfère investir dans un environnement plus propre, dans un environnement plus sain maintenant que j'ai satisfait des besoins de base. En fait, tu dois trouver que cette théorie-là est excessivement condescendante parce qu'elle disait que tes valeurs à toi sont supérieures à celles des autres puis que les choix des autres sont moins bons que les tiens.
J'ai vu une
affaire sur Facebook. Parce qu'ils n'ont pas fait ce que toi, tu juges bien.
J'ai vu une affaire sur Facebook qui m'a fait sourire cette semaine. C'était une dame au Kenya, je pense, qui a réinventé une brique incroyable faite à partir de plastique recyclé. Puis dans le fond, elle, les cours d'eau sont remplis de plastique, là, apparemment, dans le coin où elle reste, peu importe. Fait qu'elle va chercher le plastique dans les cours d'eau, elle met ça dans ses machines de transformation, puis elle fait des belles briques pour construire des maisons. Là, je suis allé, ça c'est une chose, c'est une vidéo QQ là, pour aller chercher des clics, c'est un clickbait. Là, je lis les commentaires en dessous, puis ça me faisait rire. Hey, on devrait importer la technologie en Amérique du Nord, nos pays devraient apprendre d'elle. Juste un problème, les amis, on va manquer de matières premières. La madame, là, a fait ses briques avec le plastique qu'elle trouve dans les rivières.
Ouais.
Il coûte 0$, là, tu sais.
Mais tu sais, ça revient peu à ce qu'on disait l'autre jour quand on parlait des poubelles. Ce que les gens parfois disent, vraiment, quand je parlais, les gens disent par exemple, regarde, elle recycle autant ses déchets facilement. Peut-être, mais as-tu pensé qu'il y a une raison pour laquelle elle fait ça, c'est que est la seule peut-être à le faire, donc tu as probablement plus de déchets qui se retrouvent dans la nature autrement en général. Mais l'autre question aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas importé ici, cette technologie-là? Pourquoi, c'est si bien que ça? Je veux dire, ah non, mais pas-y, c'est qu'il y a un profit à faire qui doit être assez important. Si tu convertis quelque chose qui est un déchet en quelque chose qui a de la ressource, crois-moi, tu vas faire un profit. Donc, les firmes ne sont pas des...
Mais c'est ce que je disais, Vincent.
Les firmes vont investir là-dessus.
Mais c'est ce que je disais, Vincent, quand on a parlé à un moment donné de la médecine alternative, là, ce genre de choses-là, moi, c'était un peu mon point. Je ne me souviens plus comment je l'ai exprimé. Mais pensez-vous que les compagnies pharmaceutiques qui font des recherches, qui dépensent des millions et des milliards pour trouver des médicaments, des vaccins, des affaires. Si c'était aussi simple que mettre une aiguille stérile dans le front de quelqu'un ou dans l'oreille de quelqu'un pour régler ses problèmes, pensez-vous qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait repris ça parce que ça ne coûte rien? Là. Il ne ferait pas du recherche et développement à coût de centaines de millions par année si la solution, c'est de vous mettre une pelure de patate en dessous du pied ou une aiguille dans le front.
Mais l'histoire de la dame du Kenya, c'est que le plastique qui est dans les rivières. Mais là, si tu pousses son idée ou est-ce que tout le monde l'adopte, ça ne sera pas long qu'il n'y aura plus de plastique dans les rivières. Bonne chose, excellente. Mais je veux dire, la raison pourquoi c'est efficace, c'est que son plastique ne coûte rien, il est là. Mais à un moment donné, dans les pays développés, il n'y a pas de plastique dans les rivières. Il faut que tu l'achètes, il faut que tu le recycles, il faut que tu payes du monde pour le recycler. Fait que là, oups, c'est plus la même équation économique, là. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. Hey, je suis un nouveau composteur, by the way. Puis, pas parce que j'ai des vertus écologiques, loin de là. Mais ça m'a fasciné, la technologie, comment c'est efficace. Moi, le composter, il y en a toujours été pas question. Tu sais, je veux dire, avoir une canisse de cochonnerie dans le fond de ma cour, remplie de verre, ça ne m'a jamais tenté. Ensuite de ça, quand je suis arrivé à Lévis, là, il y avait le bac brun, là, puis tout ça, puis ça m'écœurait un peu, tu sais, de mettre des affaires là-dedans, puis j'avais l'impression que ça ne commençait plus, ou garder une petite poubelle de compost sur le comptoir. Tout ce que je lisais là-dessus, c'est que ça puait. Tu avais une zone dans ta maison qui puait, fait que ça ne me tentait pas. Puis là, je suis tombé là-dessus, genre, il y avait une machine que tu peux acheter qui va accélérer le compostage beaucoup, puis ça assèche les aliments, puis ça les broie, autrement dit. Puis super bien coté, super bien. Là, j'arrive, je crée, mais t'as peu. Mais j'ai décidé de l'acheter pas parce que j'avais le goût de sauver la planète puis de faire du compost. Là, parce qu'à mon avis, si je prends l'électricité que j'ai pris là-dedans pour faire mon compost, pas sûr que c'est si écologique que ça, honnêtement. Non, mais je trouvais que cette solution-là était rendue meilleure que la poubelle classique. Parce que la poubelle classique aussi, après deux jours, elle pue, puis elle dégouline, puis il y a un dégât ou des affaires de même. Tandis que cette solution-là, tu viens d'éviter toutes ces affaires-là. Il n'y a vraiment rien qui pue, il n'y a rien qui coule, puis tout ça. Fait que par la force des choses, alors que j'ai zéro gramme d'écologisme en dedans de moi, là, puis de sauver la planète, puis toutes ces affaires-là, ben, je suis rendu un composteur parce que je trouvais que cette machine-là répondait à un besoin dans la cuisine pour la vie de tous les jours. Je ne mettrais pas les couches d'un bébé là-dedans. Là. Mais
moi, ça me rappelle vraiment Pierre Desrochers, qui est, pour tous les Québécois qui veulent savoir c'est quoi vraiment un académique sérieux, là, beaucoup plus que moi, Pierre Desrochers, c'est vraiment un gars incroyable. Lui, en fait, il y a un de ses talks qui résume tout le temps l'entièreté de sa recherche qu'il fait depuis 20 ans. C'est « Est-ce que la main invisible a un pouce vert? »
Je pense que oui, moi.
Oui, mais avec plusieurs articles historiques, scientifiques, donc scientifiques, mais qui font de l'histoire, des articles scientifiques qui font de l'analyse de politique publique présentement, donne des exemples vraiment nombreux sur comment les entrepreneurs, à toute fin pratique, créent de la valeur à partir d'absolument rien avec des déchets, donc par exemple. Et en fait, la fois que j'avais été introduit, la première fois que j'ai vu le discours de Pierre sur ça, il y avait une citation dedans de Karl Marx qui disait que le capitaliste le plus sauvage va toujours agressivement chercher à réduire les déchets pour augmenter son profit. Donc, même chez les marxistes au 19e siècle, c'était reconnu que l'entrepreneur capitaliste a pour but de réduire les déchets le plus possible parce que ça maximise son profit et ça réduit ses pertes. Ça remonte à loin, cette idée-là. Et Pierre l'a juste développé avec plein de...
Ça fait longtemps qu'il traîne dans la bibliothèque, puis je ne l'ai pas lu encore. Il faut vraiment que je le lise.
Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Le Locavore's Dilemma, c'est en gros, c'est pourquoi c'est probablement mieux pour l'environnement de manger des choses qui viennent de très, très loin que de manger des choses qui sont produites locales.
Les fraises du Québec, Vincent. On sauve la planète avec les fraises du Québec.
Bien, si tu veux garder la même diversité de produits avec les mêmes prix, tu ne peux pas faire ça parce que sans faire mal à l'environnement pour deux raisons. Premièrement, ça veut dire qu'il va falloir que tu consommes davantage d'énergie dans la préservation des aliments sur des plus longues durées. Donc ça veut dire que, par exemple, tu veux des pommes du Québec à l'année longue, il va falloir que tu en réfrigères. Au lieu de les importer, par exemple, de la Nouvelle-Zélande, la réfrigération nécessite d'énergie, la production d'énergie génère de la pollution. Donc, il y a ça d'une part. Mais il y a aussi le fait que la production par kilomètre, tonnes kilomètres transportées, les bateaux sont nettement moins polluants que les camions. Bien sûr, un camion produit moins de pollution qu'un bateau, mais étant donné la quantité qui est transportée sur le bateau, ajouter ou enlever une tonne de pommes, par exemple, de Nouvelle-Zélande sur un bateau, c'est trivial sur la pollution additionnelle. Et le point que Pierre fait, c'est que c'est peut-être mieux qu'on utilise ce mécanisme de transport-là et qu'on concentre la production agricole dans les endroits les plus productifs sur Terre, de telle sorte que les différences de productivité libèrent des acres importants qui peuvent retourner à la forêt. Soit dit en passant, tu regardes, il y a un article dans Nature qui est sorti l'année passée que j'adore. Il faisait la comparaison des manières de combattre le réchauffement climatique par coût par tonne épargnée. Et planter des arbres, c'est de loin le plus cheap.
Tu es en train de dire, dans le fond, une chose, par exemple, qu'on devrait faire au Canada, c'est se dire, ouvrons nos frontières à l'agriculture internationale d'une manière très intense, sans aucun tarif, on enlève tout ça, en sachant qu'il y a des terres agricoles qui ne seront plus rentables. Tu sais, la terre agricole dans la vallée du Saint-Laurent, qui malgré qu'il y a de la neige dessus quand même 4-5 mois par année, là, est peut-être productive assez pour produire de quoi de le fun. Mais tu sais, celle dans le bas du fleuve, qui est plein de vallons, qui est plein, tu sais, peut-être pas aussi hot un peu. Puis même quand tu remontes au nord, Lac Saint-Jean, tout ça, peut-être que nos terres agricoles ne sont pas assez productives pour faire de l'agriculture. Tu dis que les terres qu'on a défrichées avec nos ancêtres, on les laisserait repeupler ça d'arbres, enlever un peu d'agriculture, mais aller chercher notre agriculture à l'international, ça aiderait l'environnement grandement parce que c'est sûr qu'au Canada puis au Québec, les arbres, ils n'ont pas de difficulté à pousser ici. Là.
Mais juste avant que tu continues, Vincent, dans le livre sur lequel j'ai fait un podcast qui a fait capoter plein de monde qui capote, là, le fameux livre du gars du Forum économique mondial.
Les gens qui capotent, c'est ça qu'ils font pour leur vie, c'est qu'ils capotent. Seulement ça, mais Radio-Canada, Journal de Montréal, leur offre un salaire pour capoter.
Absolument. Mais dans ce livre-là, il y a un passage justement sur la captation de CO2. Puis il disait que, selon pas mal toutes les données qu'il y avait toute la documentation qui tourne autour du Forum économique, il disait que dans les grandes villes du monde, si tu fais juste planter 10% d'arbres de plus que ce qu'il y a actuellement, c'est assez pour capter la totalité du trop-plein de CO2 qu'on envoie dans l'atmosphère. Donc, pas besoin de mettre des milliards dans des infrastructures vertes de toutes sortes d'affaires. En réalité, ce qui coûte le moins cher, c'est de planter des arbres.
Effectivement. Mais non seulement ça, mais tu peux atteindre le 10% très facilement, justement. C'est drôle, par contre, parce que les écologistes, quand ils soulignent ça, avec raison, ils n'ont pas tort factuellement, mais jamais ils vont mentionner que ça pourrait venir en permettant la spécialisation agricole dans les endroits qui sont les plus fortuites, je ne sais pas comment dire ça en français, fortuitous, le mot m'échappe en français, mais les endroits qui sont les plus propices, c'est ça que je cherchais, pour certains types d'agriculture, et tu importes par la suite. Donc, ça fait du sens d'essayer de cultiver les pommes et, par exemple, le mouton en Nouvelle-Zélande et au Québec, se concentrer entre autres choses, mais que des productions marginales dans lesquelles on est moins productif que d'autres endroits, tout en tenant compte, par exemple, des coûts de transportation. Dans ce cas-là, ces terres-là, si elles retournent à l'état de nature, elles font de la séquestration de carbone. Uh-huh. Avec certaines hypothèses que je ne vois pas la peine de discuter ici, mais il y a des hypothèses qui font qu'il faut qu'ils soient présents pour que les arbres séquestrent du carbone. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de feux de forêt, par exemple, ou il faut que les arbres rejoignent une certaine maturité parce que pendant une certaine période, ils consomment. Ils émettent plus qu'ils consomment. Mais après un certain âge, c'est absolument clair qu'ils séquestrent du carbone. Surtout si ensuite tu t'en sers dans des matériaux de construction, dans le bois qui va par exemple dans ton meuble, bien pour toujours, jusqu'à ce que tu le brûles, le carbone que l'arbre a capturé va être toujours dans ton meuble pour toujours. Donc, par définition, tu n'as pas ce problème-là. Donc, tant qu'il n'est pas brûlé, tant qu'il n'y a pas de combustion, tu n'as pas de retour de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est très facile à faire, mais c'est rare que, par exemple, les gens de Québec solidaire vont dire qu'on peut, je vais avec un cliché, qu'on peut faire ça en permettant, en libéralisant le domaine agricole au Québec et au Canada pour faire en sorte qu'il y ait moins de fermes, qu'on utilise moins d'acres dans des endroits peu productifs permettant ici aux forêts de revenir et d'importer des aliments de Nouvelle-Zélande, de France.
Mais c'est sûr qu'ils ne feront pas ça parce que c'est sûr qu'ils ne feront jamais ça parce que la mode en ce moment est à l'achat local, ce qui est en fait un nom plus beau pour dire protectionnisme.
C'est plus que l'achat local, c'est sécurité alimentaire, autosuffisance alimentaire, autonomie alimentaire.
Je vais vraiment être cruel ici. Prends un communiqué de presse de l'UPA, c'est rare que je vais être cruel, mais remplace québécois par blanc. Puis étranger par noir. Puis demande-toi la question, c'est quoi la différence du protectionnisme entre le racisme et le protectionnisme? Il n'y en a pas. C'est juste que tu as décidé qu'être québécois, c'est mieux qu'être néo-zélandais ou qu'être québécois, c'est mieux que d'être ghanéen. Il n'y a aucune différence. Les gens n'ont jamais fait cet exercice-là, mais si tu prends n'importe quel communiqué de l'UPA qui défend la souveraineté alimentaire, puis tu le remplaces par des termes racistes. Tu le remplaces par des termes raciaux. Sans changer le reste du contenu, tu vas voir quelque chose d'absolument atroce aller. Mais au final, qu'est-ce que tu fais quand... Si, disons, tu fais des politiques racistes, tu fais mal aux gens de la minorité raciale que tu discrimines contre. Mais quand tu fais du protectionnisme, tu fais mal à des gens d'un autre pays qui n'ont pas une voix dans ta politique, donc dans ton environnement politique. Donc, quand les Québécois votent sur des barrières tarifaires, on se fait mal à soi-même, soit dit en passant, mais aussi on fait mal à des producteurs ailleurs qui auraient pu venir écouler leurs produits ici. C'est quoi la différence? Tu as fait mal à quelqu'un, je comprends que symboliquement, ce n'est pas la même chose, mais au terme pratico-pratique, tu viens de nuire, tu viens de blesser quelqu'un. Donc, pour moi, je n'ai jamais accepté aucune forme de noblesse à l'idée de souveraineté alimentaire. Je refuse même l'idée.
Regarde la définition de la souveraineté alimentaire sur le site de l'UPA. Le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée, produite avec des méthodes durables, ainsi que leur droit à définir leur propre système agricole et alimentaire. Culturellement approprié.
Et ça veut dire qu'on ne veut pas manger la bouffe qui a été faite par les autres. Les gens
pour être généreux avec eux, peut-être que quand ils disent culturellement, ils font référence aux cultures de certains types de produits. Ça ne veut pas dire culturel. Ça ne veut pas dire nécessairement culture dans le sens de produits culturels. C'est vraiment peut-être plus.
En fait, tu es généreux.
Très généreux. Voyons-le comme les Américains mettent des antibiotiques et des hormones de croissance, puis pas nous.
Oui, parce que les Américains sont toujours vilains dans toutes les histoires de l'agriculture.
Tout le monde
est toujours les vilains.
Mais moi, j'ai toujours trouvé ça drôle, en fait. Il y a une autre affaire qui apparaît, c'est l'espèce de phrase « les Américains subventionnent ». Très souvent, quand on regarde les données de l'OCDE sur les mesures largement conçues de subvention, le Canada subventionne à peu près autant que les États-Unis, sinon un peu plus. Donc, on va mettre ça de côté. C'est quoi le problème si les Américains veulent subventionner ce qu'ils exportent vers chez nous? Eux s'appauvrissent. Donc, eux doivent taxer leurs contribuables davantage qu'ils auraient normalement. En plus de taxer davantage leurs contribuables, nous, on n'a pas besoin de les taxer autant. Donc, on devient plus compétitif fiscalement, relativement aux États-Unis. Et en plus, on a des prix plus bas pour les produits qu'eux nous fournissent.
Ben oui, c'est comme si eux nous payaient pour consommer leurs propres produits.
J'ai aucun problème à ce que les Américains... C'est pour ma perspective, quand je dis « there is no such thing as a free lunch », les subventions qu'un autre pays donne à moi, qui est payé par les contribuables des autres pays, c'est la chose la plus proche. La plus proche, selon moi, qui existe d'un free lunch.
Mais là, j'espère que tu n'as pas pris de lait, Vincent, depuis que tu es arrivé là-bas, parce qu'il y a un bras qui commence à pousser ici ou quelque chose. Là. Parce que c'est ça qu'on nous dit ici. Là.
Je bois pas de lait.
Ah, OK, mort. Tu prends pas de chance.
Non, mais je bois jamais de lait. Je mets de la crème dans mon café peut-être un peu de temps en temps.
Ah, je pense que ça
compte. Idéalement.
Ouais, descendance italienne, bois du vin seulement, arrête.
Non, mais. Ben écoute, pendant longtemps, je mettais tout le temps du Baileys dans mon café le matin. Juste une petite shot pour donner un petit goût, pas assez pour avoir d'effet.
Ils sont tous pareils, sérieux.
Prof ou pas prof, je le répète quand même. C'est indépendant de mon métier. Et depuis que j'ai mon permis de conduire, j'ai réalisé que techniquement, je serais en train de boire au volant en buvant mon café, littéralement. Donc, j'ai arrêté de mettre du Baileys dans mon café. Maintenant, je mets vraiment juste ce que les Américains appellent cette chose odieuse qui est du half and half.
Oui, c'est du 10%.
C'est du 10%, mais ils font souvent, puis je fais souvent la gaffe parce que je ne regarde pas, je vois trop vite, parce que dans ma tête, ça n'existe jamais, ces choses-là. Les half and half aromatisés. Donc, hazelnut, c'est quoi en français, hazelnut?
Noisette.
Noisette, merci. Il y a la version vanille française. Tu es
Nutella dans ton café. Clouk mocha,
ah non, hazelnut. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. En fait, j'ai développé une affection pour le lait d'amande. Étrangement, ouais, je trouve ça vraiment bon dans un café. Ça fait juste... Si ton but, c'est juste de prendre quelque chose pour refroidir ton café un tout petit peu, c'est parfait. Ça n'a pas un goût trop puissant. Ça te garde le reste du goût du café. Alors, c'est idéal. Le lait d'avoine, j'étais surpris. Le lait d'amande et le lait d'avoine, j'étais vraiment surpris.
Ouais. Est-ce que c'est un produit local? C'est ça qu'on se demande. C'est ça que François Legault veut savoir.
Je peux te garantir qu'au Québec, le lait d'avoine et le lait d'amande, c'est pas un produit local.
C'est ce que je me disais.
Garantir. Parce que la culture de l'amande, là, je sais pas si tu as déjà vu c'est comment ça se fait. Ça se fait pas dans un climat comme le Québec. À moins que tu...
Ça c'est prend sûr beaucoup d'eau aussi.
Mais c'est sûr que le Québec est très généreux avec les subventions en général.
Il y a une salle quelque part qui pourrait le faire.
Il y a probablement un fonctionnaire fier ou dans le temps. C'était quoi les fiers, là, les fonds d'investissement en économie régionale? Ces trucs-là ou à Investissement Québec qui s'est déjà dit quelqu'un qui a besoin de 10 millions de dollars pour 20 arbres pour faire des amendes. Ah oui, ça, c'est une bonne subvention. 1 million de dollars par arbre, c'est ce qu'il faut qu'on donne. Et je suis sûr qu'il a trouvé que c'était une bonne idée. Je suis sûr qu'il y a déjà quelqu'un qui a pensé, mais malheureusement, c'est tellement ridicule que ça ne s'est pas produit.
Mais donc, tu sais que dans l'époque panier bleu où on vit, on est plus dans le contexte où on est plus dans le contexte où le gouvernement veut que les agriculteurs essayent de faire pousser des mangues sur la côte nord. Que de manger des produits qui viennent de l'international.
Ben, c'est là qu'on devrait arrêter de parler, vous puis moi. Je sais qu'on n'a pas beaucoup d'auditeurs, donc les chances que les discussions qu'on aille leur donnent des idées sont limitées, mais il ne faudrait pas prendre de chance. Ouais, je pense qu'on devrait juste arrêter la discussion ici sur les subventions à des ananas de Longueuil ou des mangues de la Côte-Nord,
ça va venir.
Des amandes de Chibougamo, et des raisins de la Gaspésie. Je pense que on devrait arrêter la conversation ici
avant problème...
que Legault se dise « Quelle bonne idée!
» C'est important, ouais, là!
Mais le problème de la plupart des gens, c'est justement d'oublier qu'en entreprise, tout est ramené à un coût de production par unité. Donc, les décisions écologiques que vous voulez prendre vous-même dans votre vie, vous devez mesurer les choses également par unité de production. Fait que si vous aimez les fraises du Québec sont bonnes, OK, vous les adorez. Puis vous pensez sauver la planète avec les fraises du Québec parce que les méchantes fraises californiennes sont arrivées en troc. Ce que vous devez aussi tenir compte dans l'équation, ce n'est pas juste l'essence du troc. C'est combien de ressources ont été utilisées dans chacune des fraises. Donc, le Québec, ayant un 6 mois par année que la terre n'est pas cultivable, on fait juste une récolte par année de fraises. Le fait aussi que ça prend quand même beaucoup d'eau, cultiver des fraises. Puis oui, ils sont différentes. Ils ont taponné un peu dans le code génétique de la fraise californienne, puis moins dans celle-là du Québec. Mais ça a des avantages de gosser le code génétique un petit peu de la fraise aussi. Là.
Mais c'est drôle, oui. Tu dis ça, parce que ça m'a rappelé un truc. Il y avait un collègue, David Anderson, de Naval Postgraduate Academy, qui a fait l'expérience, en fait, le thought experiment, je ne sais pas comment dire ça en français.
L'expérience de pensée.
L'expérience de pensée, c'est absolument atroce en français. Il y a des choses qui ne devraient pas être traduites parfois, je pense. Que,
absolument.
Des fois, il y a des choses qui devraient rester en anglais et qu'on accepte le va-et-vient entre les deux langues sur certains trucs.
Non, regarde, nous autres, la crème à café, ce n'est pas du half and half.
Je ne suis pas fâché. Il regardait la quantité de calories que tu brûles en marchant et en faisant l'hypothèse que tu essaies de conserver ton poids constant, est-ce que c'est mieux de prendre ton auto, juste à quel point c'est mieux de prendre ton auto étant donné que tu dois consommer davantage de calories pour garder ton poids constant.
On compare l'essence aux calories.
Ben, c'est de l'énergie. Au final, que je mette des combustibles fossiles dans mon auto ou que je demande à quelqu'un de me nourrir pour la marche que j'ai faite, il ne tenait même pas compte des coûts de temps ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre à la place au lieu de marcher pendant un long moment? À partir de quel kilomètre c'est mieux d'utiliser ton auto?
OK.
La réponse était 2 kilomètres. Si tu te mettais à marcher...
ce que la plupart des gens font.
Ce que la plupart des gens font, si tu marchais plus que 2 km par jour, ça inclut les marcher à l'intérieur de la maison, ton auto consomme moins d'énergie que toi au net. Parce que ça, c'est avec l'hypothèse, c'est que vraiment, tu veux garder ton poids constant. Je comprends qu'il y en a. Si tu veux marcher pour perdre du poids, puis tu veux faire plus de dépenses de calories, d'accord. Mais au net, il arrivait à des scénarios comme, par exemple, qu'il y avait, je pense que c'est 2 km, 2 points quelque chose, que ça devenait plus avantageux pour l'environnement de te servir de ta voiture que de marcher. Justement parce que ça tient compte du fait que...
Ça creuse plus ton appétit. Puis...
Il y a d'autres trade-offs. Il y a des échanges. C'est pas vrai que c'est si simple... que ça. Puis en fait, souvent, pour ça que chez les gens de droite, là, puis j'essaie de dire droite,
ouais. Je me fais non, toujours mais on comprend, ça simplifie la conversation.
Oui, ça simplifie la conversation, mais souvent, je me fais un peu taquiner parce que je dis que je suis un écologiste de marché, donc je pense que...
Encore là, c'est galvaudé. Un économiste de marché, c'est ceux-là qui ont créé les bourses de carbone dans leur tête. On va prendre les mécanismes de marché.
Un environnementaliste de marché, excuse-moi. Ouais. Un environnementaliste de marché. Mais tu sais, par exemple, mon opposition par rapport à la taxe carbone, c'est pas que théoriquement, je pense que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est théoriquement une très bonne chose. Le problème, c'est que pratiquement, on fait plusieurs choses qui subventionnent. Parce que quand on met la taxe sur le carbone, la justification qui est donnée, c'est qu'il y a un écart entre le coût social et le coût privé de nos actions. Et la taxe a pour but de ramener les choses ensemble, d'éliminer l'écart entre les deux. Mais moi, ce que je souligne, c'est que le gouvernement fait plus souvent l'effet contraire, d'étendre l'écart. Tu ne mets pas de péage sur les routes. Les gens vont conduire davantage. Tu nationalises la collection de déchets et que tu fais en sorte que les gens ne payent plus au volume. Les gens vont produire plus de plastique qui vont se retrouver à polluer les cours d'eau. Tu dis, je sais que je ne me fais pas d'amis, par exemple, dans le secteur pétrolier, mais tu dis que tu peux utiliser l'eau comme tu veux sans l'acheter à qui que ce soit, donc il n'y a pas de prix. Même chose pour les agriculteurs, ils vont consommer plus d'eau que nécessaire. Ils ne vont pas faire d'investissement dans de l'efficacité de la consommation. Par contre, dans des endroits, d'ailleurs, ça, je trouve ça drôle, il n'y a personne à gauche qui va vouloir faire ce point-là parce que ça implique de souligner Israël. Mais Israël, parce qu'il y a vraiment, ça, c'est une des choses que je ne comprends pas, la haine maladive d'Israël à gauche, au même titre qu'au Québec, on a la haine maladive des États-Unis et qu'à droite, au Québec, on a la haine maladive de la France. J'aime taquiner mes amis français, mais il y a toujours des groupes de gens que certaines tribus politiques semblent haïr. Mais à gauche, on déteste vraiment Israël. Mais en Israël,
ben, sauf que c'est l'histoire de la mentalité anticoloniale.
Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Là. C'est toutes les discussions qu'on peut avoir généralement sur Israël avec la plupart des gens sont absolument improductives et déplaisantes. Largement parce que souvent, tu as des gens qui sont fondamentales, qui veulent...
J'adore les Français. J'aimerais juste qu'on arrête de copier les mesures sanitaires.
En fait, je taquine souvent...
Peux-tu fermer TV5 en fait, au Québec?
OK. Laisse-moi finir ma pensée. Là. Israël, à cause que l'eau là-bas est tarifiée d'une certaine manière, ce qui n'est pas le cas ici, tu as dans l'agriculture israélienne l'utilisation de la micro-irrigation. Il y a énormément de ciblage de la consommation d'eau pour...
Parce que l'eau devient précieuse.
Exactement. Donc, tu vois qu'il y a des mécanismes de marché dans lesquels tu laisses les entreprises utiliser leurs ressources efficacement et les allouer selon le mécanisme des prix.
Mais encore là, c'est pas une taxe. C'est pas une taxe qu'ils font. C'est une forme de tarification. Ça veut dire, hey, le clown, ça me coûte de l'argent d'envoyer de l'eau. Paye combien ça coûte d'envoyer de l'eau. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est si on privatisait, par exemple, ou on instaurait un marché compétitif pour la production d'eau potable avec une tarification pour l'utilisateur, ben, il y aurait des changements de comportement qui s'opéreraient au niveau de l'agriculture pour faire plus attention à l'eau. Parce que le purificateur d'eau, lui, veut faire son profit.
Fait qu'il envoie arroser le driveway en juillet, il penserait peut-être plus.
J'ai un exemple encore plus concret pour les Québécois. Puis je trouve ça drôle quand les Québécois disent « Notre énergie hydroélectrique au Québec fait en sorte que nous sommes les plus petits pollueurs d'Amérique du Nord. » J'ai toujours envie de leur dire « C'est pas vrai du tout. » Parce que ce que tu as fait, c'est qu'en mettant les prix tellement bas pour l'électricité industrielle et l'électricité résidentielle, tu en as moins qui a été exporté aux États-Unis. Donc, tout ce que tu as fait, c'est que tu as encouragé les Américains à ouvrir plus d'usines au charbon, plus d'usines à gaz naturel qui sont plus polluantes que l'énergie hydroélectrique. Donc, techniquement, le Québec, avec ses politiques ridicules qui perdurent encore aujourd'hui sur le contrôle des prix de l'électricité, je dis contrôle des prix de l'électricité parce que c'est plus simple que de dire toute l'espèce de termes techniques qu'on donne avec les catégories de tarifs et tout ça, là, juste pour simplifier. Le fait que les prix sont nettement en bas de ce que le marché paierait pour l'électricité résidentielle et industrielle au Québec, mais ça fait en sorte qu'il y a des millions de mégawatts qui ne sont pas exportés vers la Nouvelle-Angleterre. Et donc, ça fait en sorte que la Nouvelle-Angleterre a établi plus de capacités électriques qui dépend du charbon. Donc, au final, tout ce que le Québec a fait, c'est d'encourager les États-Unis à polluer, d'utiliser une méthode de production qui est plus polluante que celle qui était la plus productive, parce que nous, on a décidé que pour gagner des votes, que ce soit les libéraux ou les péquistes, pour gagner des votes, on allait réduire les prix de l'électricité. C'est vraiment, c'est le comble du ridicule. Quand je vois le Québec se faire la petite tape dans le dos, oui, nous autres, on est propres. Non. Tout ce que tu as fait, c'est que tu as déplacé. En jouant avec les mécanismes de marché, en manipulant les marchés, tu as juste déplacé la pollution du point A vers le point B.
Et là, tu as l'air d'un génie après.
Oui, mais c'est bien après ça. Ça permet à n'importe quel de ces clowns qui prétendent être des leaders. Mm-hmm. Ça te montre toujours à quel point. Parce qu'en élection, tu vois mon cynisme toujours augmenter. Ouais.
Mais tant qu'à être sur l'environnement, parlant de clowns et de cynisme, tu sais, depuis quelques années, là, la grosse mode, c'est d'utiliser un peu finalement l'environnement pour collecter de l'impôt. Là. T'sais, on l'a vu avec les éco-taxes qu'on paye sur tous les produits d'électronique. Qu'est-ce que ça fait? Ça constitue un fonds. Puis après ça, le gouvernement s'amuse avec ce fonds-là pour donner des subventions un petit peu partout. On l'a vu, à un moment donné, il donnait des subventions à l'Oblast. Je ne me souviens plus pour faire quoi. Ça fait partie des trucs qui me créent quand même un peu de cynisme par rapport à tout ça. Non, entre autres, parce qu'en plus, je sais plus si c'est la vérificatrice générale ou un protecteur du citoyen, peu importe, là, mais à chaque année, il y a comme un rapport sur l'utilisation désastreuse du fonds vert, mais ça continue quand même comme ça. Puis, tu sais, c'est comme un peu pavé de bonnes intentions, mais au bout du compte, on n'est pas tellement sûr que ça a un impact positif sur l'environnement, ce truc-là.
C'est pour ça que je dis souvent à mes collègues économistes de ne pas participer dans le processus de conception de politique publique. C'est correct d'évaluer des politiques publiques lorsque tu es économiste. C'est correct de réitérer les principes de base. Mais quand tu participes dans le principe et que tu leur expliques la théorie, 9 fois sur 10, ce qui va se passer, c'est qu'un politicien va se servir de toi pour justifier quelque chose qu'il voulait faire dans tous les cas et va trouver une manière d'utiliser ton autorité comme chercheur, ta respectabilité comme instrument pour faire ce qui n'est pas ce que tu pensais. La taxe sur le carbone est un bon exemple. En fait, dans la pile de livres que j'ai à côté de moi, j'ai un de mes livres préférés, celui-là, Climate Economics, qui est le manuel de base, selon moi, c'est l'un des meilleurs livres sur l'économie du climat. C'est écrit par Richard Toll, d'une université aux Pays-Bas. Puis c'est un des gars qui participe. Si je ne me trompe pas, c'est un des économistes qui participe au GIEC ou sinon à l'équivalent que l'OCDE organise. Donc, c'est une autorité. Ce que je dis ça, c'est que il est considéré comme une source. Et lui, quand il parle de méthodes pour combattre le réchauffement climatique, il va souligner, par exemple, la taxe carbone ou le marché des émissions. Mais ce qu'il souligne, c'est que quand les économistes parlent de ça, c'est que tu devrais t'en servir pour avoir ce qu'on appelle le double dividende. Le double dividende, c'est que si tu es capable de taxer l'externalité, donc de l'internaliser via la taxation, tu peux réduire tes impôts sur d'autres domaines. Donc, tu te sers des revenus que tu as dégagés de cette taxe-là pour réduire des impôts qui sont plus socialement nocifs. Donc, par exemple, la taxation sur le capital, la taxation sur le revenu, la taxation sur
les entreprises. Ce bout-là, il n'en parle pas souvent.
Hein? Non, non, ce bout-là, il doit être oublié pas mal.
Mais, il y a juste Tesla qui ramasse souvent, ses subventions, par exemple. Ça, c'est correct. Mais...
Ben, c'est ça, mais à un moment donné, j'ai eu la conversation avec un Trevor Tombe, qui est un bon économiste à l'Université de Calgary. J'ai dit, lui, il est vraiment un grand défenseur de la taxe carbone et il fait des travaux exceptionnels sur le sujet. Il est vraiment, là, c'est la fine pointe de ce qui se fait en économie. Puis ma critique que j'y fais chaque fois, j'ai dit, arrête de donner de la crédibilité à ces gens-là. Ce qui se passe, c'est qu'après ça, ils vont se servir de ce que tu dis qui est très raisonnable, qui est basé vraiment sur des principes très, 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 comment on dit, sound economics en anglais. Ils vont s'en servir, ils vont prendre la partie qu'ils veulent, ils vont épurer le reste et tu vas te retrouver à devoir par la suite même porter un peu de l'odieux lorsqu'il va y avoir peut-être un backlash. Je dis, tu devrais jamais, jamais, jamais prêter ta crédibilité à des gens comme chercheurs, à des gens en politique. Quand tu leur parles, tu devrais leur parler sur des premiers principes. Tu devrais donc y aller vraiment sur la grande idée, le grand concept, et pas leur proposer des mini-nuances ici et là. Et tu devrais le faire en public, de telle sorte que jamais tu peux être accusé d'avoir altéré ton propos à n'importe quel moment. Tu te dis ce que tu disais dans ta recherche en public, tu l'as juste vulgarisé. Pour les autres. C'est vraiment ça qu'un bon économiste devrait faire. La taxe carbone, pour moi, c'est vraiment le meilleur exemple parce que tu te retrouves tout le temps à épurer le principe qui est tout à fait défendable dans n'importe quel cours d'économie. Mais dès que ça rentre sur le marché politique, la game devient complètement différente et tu n'as pas l'idéal qui est présenté dans les manuels. Donc, quand tu dis ça, tu as l'idéal, tu as le monde parfait qui pourrait peut-être exister, mais... comme on dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est juste que...
Au final, le pire, c'est comme tu dis, c'est que si tu participes à ça, ils vont se servir de toi comme d'un argument d'autorité. Puis là, ils vont dire, je ne sais pas, moi, le gouvernement du Québec songe à faire X mesures. On a fait une commission parlementaire et il y a un économiste qui est venu, M. Gélozo. Puis de ce qui en sort, écoutez, il nous a vraiment dit que c'est ça qu'il fallait faire. Finalement, ils font à peu près la moitié du contraire de ce que tu as dit. Puis après, ils se disent...
Toutes les fois que j'ai vu Vincent Gélozo dans une commission parlementaire, je te jure que le gouvernement ne l'a jamais écouté.
Ben, tu ris, mais j'ai le malheur d'avoir été écouté une fois.
T'es pas sérieux?
Quand c'était le temps de quitter Uber.
Ouais, les taxis.
Quand j'ai quitté les taxis, j'ai vraiment dit... j'ai défendu un principe que je maintiens, c'est que tu as parti ce programme-là, tu les as forcés à acheter des permis, tu devrais minimalement offrir une forme de compensation.
Ce que tu as pas mal toujours dit aux agriculteurs aussi, hein, par rapport à la gestion.
Effectivement. Effectivement. Mais il y a eu deux conséquences de mon propos. La première, c'est que ça a donné naissance à ce que des gens m'ont taquiné, qui me cause vraiment une réaction urticaire, c'est que ça s'appelle la taxe Gélozo. Et mon nom est associé avec une taxe, ça fait excessivement mal. Ma conjointe me le rappelle fréquemment. Je ne sais pas à quel point ça a été populaire, mais j'ai deux personnes à Québec qui m'ont fait la joke. Mais la deuxième, c'est que quand j'ai dit ça, la CAQ essayait justement d'offrir moins que ce qui a finalement été offert et que les libéraux, les solidaires, les péquistes ont sauté là-dessus en disant « Regarde, même Vincent Gélozo, le gars de l'Institut économique de Montréal, avec la grosse méchante droite québécoise, dit qu'il faut que vous les compensiez. » Et me sentir utilisé par trois des quatre partis. En fait, quand je dis trois des quatre partis représentaient à l'Assemblée nationale que je méprise. Les autres, je peux les mépriser aussi, mais ils rentrent pas dans la catégorie représentée à l'Assemblée nationale. En tout cas, à l'époque, maintenant, il y en a quatre à l'Assemblée nationale. En fait, il y en a cinq que je méprise. tous les partis politiques. Tu sais que, vous savez ce que je pense de la politique active. Jamais.
Tu t'es fait baiser, pas pire.
Ouais, ben, j'ai pas aimé le sentiment que je suis devenu un outil pour faire des points sur quelque chose d'autre, même si au final, ce qui s'est passé, c'est que ça a donné un résultat que je voulais.
La CAQ m'avait appelé à l'époque, hein, de cette commission parlementaire-là. J'avais eu deux attachés politiques qui avaient eu des discussions de 30-45 minutes avec moi au téléphone. Pas le temps qu'ils me parlaient encore, là.
Mais c'est quoi, quand ces affaires-là se passent, je les crois pas. Parce que j'ai eu la même discussion il y a quelques mois.
Ils cherchent juste des alliés des médias, sérieux.
C'est... Exactement. C'est exactement ouais, ça que je m'en allais dire. J'allais pas le dire nécessairement sur la base des médias, mais qu'il y avait soit une tentative
ben, moi, d'éliminer, c'était carrément ça,
là. D'éliminer un critique potentiel ou d'atténuer les critiques dans un certain cas. J'ai vu quelqu'un qui m'a approché du ministère des Finances. Est-ce que tu voudrais participer à... Je ne me souviens pas du langage utilisé, mais c'était du staff politique. Est-ce que tu voudrais participer à donner des propositions de réforme? Ma réponse avait été non. Que je n'étais pas du tout intéressé. Tout simplement parce que je ne veux pas, je veux pas participer au jeu politique. Je n'ai pas de problème à aller m'adresser des gens en politique, mais comme je dis, la condition, c'est qu'il faut que ça soit public, de telle sorte que il n'y a personne qui peut dire que j'ai essayé de jouer le jeu. Oh. La deuxième chose, c'est que je ne vais pas du tout endosser ou encenser ou critiquer tes adversaires.
C'est pas le...
Je vais dire ce que moi je dis, puis le reste, je ne comprends
pas. C'est pas l'exclusivité. En plus, là, on a parlé d'économie parce que c'est ça c'est ça le prétexte aujourd'hui, là, mais pendant que tu parlais, je pensais à plein d'autres exemples où, dans le fond, les États cherchent à faire porter l'odieux de certaines choses à des spécialistes ou en tout cas à des gens qui ont une formation dans certains domaines. T'sais, je pense, par exemple, en France, à un moment donné, il y avait, je pense que c'était à l'époque de Sarkozy, où il y avait coopté là, un philosophe qui s'appelait Luc Ferry pour devenir ministre de l'Éducation, puisqu'il avait écrit plusieurs livres sur l'éducation. Ça a donné lieu à une genre de réforme scolaire qu'eux autres avaient déjà décidé avant, mais quand ça a commencé à être critiqué, ils ont dit, ben là, écoutez, regardez la sommité qu'on a comme ministre de l'Éducation. Puis lui, finalement, quand il est sorti de la politique, après, il a dit qu'en gros, il s'était un peu fait baiser, justement, parce qu'il a été utilisé par le gouvernement pour faire des mesurettes ici et là. Puis, tu sais, finalement, derrière les coulisses, personne ne saura jamais quelle position il a défendu, en fait, là.
Marc Bellemare, c'est le coup qu'on a essayé de faire à Marc Bellemare, carrément. On l'a attiré en politique pour enlever le no fault, ce qu'on lui avait dit. Évidemment, quand il est arrivé là, il a dit non, on ne veut pas enlever le no fault, on voulait juste ta crédibilité. Puis lui, il nous a donné un chien de sa chienne.
Mais regarde, c'est un autre exemple de ça, c'est Cédric Villani, qui était fondamentalement. Il avait gagné, en fait, c'est un mathématicien. C'est un mathématicien de très, 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 très haut niveau. Et il a gagné ce qu'on appelle la médaille Fields. La médaille Fields, c'est le prix Nobel en mathématiques. Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, mais si tu gagnes la médaille Fields, le Fields Award, c'est que tu es littéralement un génie en termes de.
C'est une fois ou quatre ans, je pense, hein, c'est ça. Quelque chose comme ça, là.
Je ne sais pas, par contre, la fréquence de franchise, mais c'est pas aussi gros
qu'un prix Nobel.
Le Nobel, mais donc t'as pas, par exemple, quand tu gagnes le prix Nobel, tu reçois, je pense, 101 million.
4 ans.
C'est aux 4 ans, OK. Villani est un gloréat de la...
Pas un million, c'est 15 000 piastres, ce prix-là.
Non, le Nobel, c'est 1 million. Ouais. Je pense que c'est 1 million de couronnes suédoises. C'est à peu près 100 000 $. La médaille Fields, c'est, je ne savais pas, le 15 000 $. Mais c'est quand même excessivement prestigieux. Si tu as ça, tu te retrouves dans les top 10 universités dans le monde sans même te... Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts par la suite. Tout le monde va t'ouvrir les portes.
2014, il y a un Canadien qui l'a eu. Manjul Bhargava. Un gars d'Hamilton.
J'étais pas au courant de ça. Mais oui, celui dont je parle, Cédric Villani, était un des grands mathématiciens français.
2010. Et,
il a gagné en 2010?
Oui.
OK. En 2017, il s'est présenté avec La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron.
Mm-hmm.
Il s'est même présenté à la mairie de Paris, je pense, en 2020. Il a perdu dans les deux fois. Mais au final, sa participation en politique a été particulièrement intéressante, par exemple, pour Macron, parce qu'il offrait une sorte d'image de l'autorité de la science.
Oui, absolument.
Et plusieurs personnes de discussion que j'ai avec eux, des collègues mathématiciens, ont dit « c'est un deux Cédric Villani, t'as Cédric Villani politique, t'as Cédric Villani pré-politique, et c'est deux personnes complètement différentes. » Et dès que le politique disparaît un peu, c'est des discussions différentes aussi qui émergent. Et ça t'en vient vraiment à l'idée que des gens qui ont... c'est pour ça que j'ai vraiment une hostilité à l'égard de l'académique comme dans le monde politique. C'est que d'une part, les gens qui sont académiques pensent qu'ils sont des génies. Et il y en a qui le sont, soyons francs. Je pense que Villani est un génie. Mais ils pensent qu'être un génie veut dire qu'ils sont capables de faire des choses exceptionnelles dans le monde politique. Ce n'est pas le cas. Et plus souvent qu'autrement, ils pensent qu'ils sont d'une intégrité parfaite et que personne ne va être capable de les corrompre. Mmh. Mais la corruption, ce n'est pas juste d'être achetable pour une enveloppe brune. C'est beaucoup plus complexe que ça, la corruption. La corruption peut inclure que même des fois, ça peut se passer en dépit de tes meilleures intentions, que tu ne réalises pas la dérive dans laquelle tu t'engages, que tu sacrifies des principes et que tu réalises uniquement plus tard que tu as été utilisé par quelqu'un qui cherchait uniquement à satisfaire sa soif de pouvoir ou peu importe c'est quoi la motivation de cette autre personne-là. Et tout ce que tu peux avoir, c'est un goût amer qui te reste.
Mais tu te donnes une citation de Cédric Villani le 19 mars 2020, elle va te faire capoter. Durant la pandémie de COVID-19, Cédric Villani déclare que ce serait une erreur de laisser le scientifique remplacer le politique.
Ben, il a dit quelque chose d'absolument vrai là-dedans, mais je pense que ce n'est pas juste en temps de pandémie. Je pense que c'est vraiment important que le scientifique se garde vraiment au-delà, le plus loin possible de l'univers politique.
Ouais, je ne suis pas sûr que c'est ça.
Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Là. Ouais. C'est vraiment pas ça qu'il voulait dire. Là. L'histoire,
c'est que... la citation dans ce cas-là?
Tu es dans un contexte de COVID-19. Ce serait une erreur de laisser le scientifique remplacer le politique. Donc, autrement dit, tu sais, par exemple...
Correct, comme propos, je ne vois pas le problème.
Ben écoute, je vais donner un exemple. Pas de même, ouais. Dans le temps de la pandémie, tu sais, j'ai commenté ça à l'aller-retour, moi, au Québec. Puis ce qui m'a tout à fait capoté, c'est que, par exemple, quand on était dans le temps des zones rouges, jaunes, verts, tout ça, c'était des décisions politiques au lieu d'être des décisions de la santé publique. Donc, la séparation entre le scientifique
et dans ce cas-là, je pense que je vais le défendre ici, Villani, parce que je vois où est-ce que tu t'en vas, mais tu devrais peut-être préférer le politique au scientifique parce que j'ai ça l'idée, la science.
Le point que j'ai tout le temps défendu, c'est que normalement, pour des questions de santé publique, donc la décision de mettre la province en état d'urgence sanitaire, la décision de fermer des régions, d'amener des contraintes, devrait être faite sur des bases quand même un peu plus objectives que des sondages. Ça, c'est la base.
Non! Je suis vraiment... Je vais faire un pushback. Finis ton affaire.
Bien, c'est qu'à un moment donné, on est venu avec des contraintes qui étaient autres que la santé publique. C'est devenu des contraintes politiques, médiatiques, des enjeux de sondage. Puis, il y a bien des affaires présentement qui se font au Québec qui n'ont aucun crise de rapport avec la science. Là. Puis, on prend Horacio Arruda, qui est un scientifique, on le met en avant, puis envoie mon homme, c'est toi qui... Défends-nous ça, puis il se cache en arrière du scientifique pour dire c'est la science, alors que la science présentement est complètement utilisée par le politique. Dans ma perspective, le politique a son rôle à jouer, qui est définitif, la gestion du Parlement, les économies, même qui on nomme à la tête du volet scientifique. Mais la santé publique doit être indépendante du politique. Elle doit prendre ses propres décisions, elle, de son côté. Là.
Non, je suis encore plus radical que ce que tu réalises là-dessus. La réalité, c'est Horacio Arruda, ça n'a pas décidé de se prostituer. Là. En fait, je ne pense pas qu'il s'est prostitué.
Ben,
mais
pas pire,
par contre, mais ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'il s'est laissé utiliser.
Ouais.
Et je pense que c'est ça le danger. C'est que.
Parce qu'il n'y a pas de séparation politique là, présentement.
Mais c'est parce qu'il y a quand même une rampe pour lui. Je veux dire, techniquement, lui, à l'Institut de santé publique, l'Institut national de santé publique, a accès maintenant, si la crise est importante, à plus de financement, à plus de prestige pour lui. Donc, lui, il est gagnant d'une certaine partie de la relation symbiotique entre lui et le politique. Et lui, ce qu'il est en train de faire, l'échange qui se produit entre les deux, c'est qu'un prête sa crédibilité à l'autre pour le pouvoir que l'autre peut utiliser. C'est pour ça que je suis assez radical quand je dis, et ça, j'ai vraiment aucun problème à défendre ça, même si je sais que ça me met vraiment fréquemment en dehors de la fenêtre d'Overton, là, au Québec. Il ne devrait pas y avoir de scientifiques au gouvernement, mais vraiment pas. Tu devrais avoir une séparation totale entre les gens qui font de la recherche et les gens qui font de la bureaucratie, et tout ce qui devrait se produire, c'est des communications entre eux. C'est-à-dire que tu peux avoir des conseils qui sont donnés, tu peux avoir de l'évaluation politique publique, mais d'imbriquer dans une bureaucratie des gens qui font de la recherche, ça a deux effets
pervers. Mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que la santé publique au complet, il faut débarquer ça du gouvernement.
Okay. Premièrement,
c'est parce que c'est des scientifiques, là, les gens dans la santé publique.
Oui, absolument. Puis c'est ce que je suis prêt à défendre. Parce que mais la manière dont c'est dit, c'est comme s'il y a une prémisse dans ta question, dans la manière dont tu l'as formulé. Je ne dis pas de les débarquer de la conversation. Je dis de les débarquer du mécanisme qui leur donne un lien avec le pouvoir. C'est ça qui est vraiment plus important. Ouais. Parce que lorsque le scientifique a un lien
mais
avec...
On dit la même affaire à ce moment-là.
Que... Ouais, je pense que vous dites un peu
la même chose. On dit vraiment la même affaire. Moi, quand j'arrive, puis je dis...
Oui, mais c'est important quand même de souligner les petites différences dans comment on le dit, parce qu'il y a des ramifications à ça. Parce que si moi, disons, je recevais du financement de l'État, pour conserver le financement de l'État, je vais changer peut-être mes questions d'intérêt. Oui. Je vais peut-être me diriger vers d'autres sujets.
En fait, c'est que tu vas juste plus loin d'où est-ce que j'irais. Dans le fond, moi, de mon côté, c'est de dire qu'il devrait y avoir un mur entre Horacio Arruda et François Legault.
Ça serait une amélioration.
Vraiment pas dans la même conférence de presse. Toi, tu pousses
plus
loin. Exactement. Toi, tu pousses plus loin en disant cet organisme-là ne devrait même pas faire partie de l'État québécois et ne devrait pas être financé nécessairement par l'État québécois.
Bien, regarde, je vais vous donner un exemple concret. Sorte, non, mais juste pour le bien des auditeurs, Vincent. Juste pour le bien des auditeurs.
Oui, vas-y.
Juste pour le bien des auditeurs, on va prendre un exemple concret de ce que Yann veut dire. Là. Printemps passé, il y a une conférence de presse. Le docteur Arruda, il se fait poser la question. Là, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable qu'il y ait des bals définissants pour les jeunes du secondaire? Sa première réponse, c'est non. Il ne devrait pas y en avoir parce qu'il va y avoir trop de contacts. Dans les bals de finissant, on se donne des becs, on se colle, on danse. Ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qu'il y a eu durant la fin de semaine ou les jours qui suivent? Il y a eu des sondages. Probablement que ces sondages-là ont dit que les parents et les jeunes, ils en ont plein le casse des mesures sanitaires. Il y a eu François Legault qui a dit « on va regarder ce qu'on peut faire, on discute avec le docteur Arruda ». Et comme 4-5 jours après, il a tenu une autre conférence de presse, docteur Arruda, où il a dit à peu près tout le contraire de ce qu'il a dit la semaine d'avant. L'apparence que ça donne, je ne sais pas si c'est ça, mais l'apparence que ça donne, c'est que le politique téléphone aux scientifiques et dit « écoute, là, ça ne marche pas en tout ce que tu as dit par rapport au bal de finissant, fait que tu vas me refaire une conférence de presse puis tu vas changer ta version ».
Mais regarde, il y a deux choses que j'ajouterais. J'aime vraiment l'exemple que tu donnes. Je n'y avais pas pensé, mais il est très pertinent. Lorsque tu prêtes comme chercheur ta crédibilité aux politiques, il y a un effet pervers. C'est que si tu cèdes éventuellement, tu vas souffrir énormément, pas juste comme chercheur, mais aussi comme institution. Donc, l'institution de l'université est sous attaque sur plusieurs raisons. à cause que tu as politisé, tu as ouvert la porte à des gens de dire. Là, par exemple, quand Andrew Scheer disait dans la dernière élection que les universités canadiennes se verraient refuser du financement si elles ne faisaient pas X ou Y, ce qui incluait, soit dit en passant, les universités privées, c'était de l'ingérence. Je veux dire, je n'aime pas l'idée que les universités reçoivent du financement public, mais tu réalises que la politisation du processus scientifique a comme ouvert la porte aux politiques de dire « Ah, regarde, maintenant j'ai un droit de regard ». Donc, le backlash, c'est qu'après ça, tu peux en venir à perdre l'indépendance du scientifique. Si tu mets le mur dont on parle entre les deux sphères, il y en a juste un mur que je pense qui est plus petit que le mien, mais qui est probablement beaucoup plus gros que ce qui existe présentement. Ouais. Tu permets de faire en sorte que si un scientifique décide, lui, individuellement, de prêter sa crédibilité au gouvernement, c'est lui qui paye le coût. Et ça, c'est correct. Si tu veux prêter ta crédibilité au gouvernement parce que tu as envie de faire ça, mais que tu es vraiment convaincu, parfait, go for it. Mais c'est chercheur X qui va souffrir en termes de réputation s'il a tort. Crois-moi, ça va encourager beaucoup plus de modestie d'une part chez les scientifiques, mais aussi c'est que ça préserve dans le long terme notre autonomie en matière de recherche. Puis quand je dis notre, c'est parce que moi, je trouve que c'est vraiment important de conserver l'autonomie.
Vincent, là, je vais enlever tes lunettes roses sur quelque chose. C'est qui reste d'autonome sacrément dans le système de check and balance du système politique? Je veux dire, les médias sont plus autonomes, les cours de justice sont plus autonomes. Là, il resterait juste les universitaires qui sont autonomes. Chris, ils ne sont même pas eux autres non plus.
J'ai pas dit qu'ils étaient autonomes présentement.
Non, 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 tu comprends ce que je veux dire? C'est que là,
OK, je pensais que tu m'attribuais ce propos.
Non. Là, on est dans un monde là, où est-ce que Christy, il n'y a plus personne d'autonome.
Mais c'est pour ça que ça revient souvent au thème principal de toutes les choses que je dis. Il faut dépolitiser nos existences. C'est tout à fait possible d'avoir... Parce que, tu sais, je veux dire, je suis sûr que j'ai des collègues qui disent des choses qui ne sont pas idéologiquement alignées sur la place publique, mais que ce n'est pas particulièrement faux. Ce n'est pas quelque chose qui est... Tu pourrais être en désaccord, tu pourrais trouver que ce n'est pas important comme point, mais qu'au final, ce n'est pas faux. Mais ils ne vont pas le dire tout simplement parce qu'ils ont peur de la rétribution sur tel ou tel aspect de leur carrière ou qu'ils vont se faire bloquer à certaines choses, se faire refuser des grants sur la place, des grants gouvernementaux. Dans ce cas-là, ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Cette politisation de la recherche, parce que ce qui se produit, c'est que tu as des gens qui choisissent leurs questions de recherche en fonction de ce qui est populaire ou impopulaire. Tu as des gens, après ça, peut-être qui, ça, c'est les plus honnêtes, ceux qui vont juste peut-être, sans nécessairement mentir, ils vont juste éviter certaines choses. Il y en a aussi peut-être qui vont mentir. Tu as beaucoup d'études qui sont rétractées souvent parce que les résultats ont été trafiqués. Par exemple, moi et Frank, il y a quelques semaines, on parlait d'un chercheur néerlandais qui trafiquait ses données complètement. Tu en as aussi qui pourraient faire ce qu'on appelle le file drawer, c'est-à-dire que tu as un résultat qui ne fit pas avec ce que tu t'attendais ou ce que tu pensais être intéressant. Alors, tu décides de jeter tes résultats et tu ne publies pas le papier. Donc, c'est un peu comme si tu disais, ben c'est pas ce que je voulais, donc je ne vais pas en parler. Moi, j'ai publié des articles dans lesquels ce n'était pas ce que je pensais. J'ai essayé de les expliquer.
Tu penses-tu que tu es une minorité là-dedans? Est-ce que tu penses que tu fais partie d'une minorité des gens qui font ça? Moi, je pense que j'ai. Mon intuition, c'est que oui.
Je pense que j'ai une tête de cochon, oui, que je ne veux pas compromettre, mais tu le vois dans le fait que je suis catégorique à propos de ne pas faire de politique. Puis la raison, ce n'est pas parce que je pense que je suis meilleur, c'est parce que je sais que je peux céder à la tentation. Alors, je me prive de la tentation le plus possible parce que j'en ai fait de la politique. C'est attrayant, c'est enivrant, c'est excitant de se sentir en pouvoir. Mais ce n'est pas les moments dans ma vie que quand je regarde en arrière, je me dis, c'est là que j'ai été une bonne personne. Non, c'est généralement les moments dans lesquels je me dis, je n'ai pas été correct, j'ai été cruel. Donc, quand je dis que je ne veux pas en participer, ce n'est pas juste que je vois le.
Le gros de ce qu'on a fait en politique, Vincent, c'est quand même de boire de la bière. C'est
corruptible. Oui, mais tu sais, tu dis ça, mais combien de fois tu as méméré contre quelqu'un? ou que tu as aidé à propager des rumeurs, même si tu as juste écouté la rumeur que quelqu'un a dit d'une autre personne ou d'une fille qui avait
des comportements. Ah oui, c'est que ça.
C'est cruel de faire ça. C'est vilain. Mais ça, quand tu te dis, c'est que la réalité, c'est que souvent, on va accepter, on va participer parce qu'on comprend les incitations du jeu politique. La raison que je pense que je ne fais pas ça, c'est parce que je me prive de la chance d'être corrompu. C'est pour ça que je refuse de faire de la politique.
Mais tu sais, Vincent, de la politique, il y en a partout.
Pourrait être aussi atroce. Oui, mais je comprends
ce que je veux dire, c'est que.
Mais la question.
Ce que je veux dire, c'est quand j'étais, mettons, à l'Université Laval, quand je suis rentré à la faculté de philo, ils changeaient de doyen. Mais là, si on était comme dans un processus quasiment électoral, là. Il y a quelqu'un qui se présente, il y en a un autre, ils sont deux à vouloir être doyen. Là, tu prends ta pause dehors, puis là, il y a deux professeurs qui fument une cigarette, ils parlent en mal de un des deux qui va se présenter. Ouais, lui, c'est pas tant un bon chercheur. Finalement, tu te ramasses que même dans la sphère universitaire où tu penses que les gens sont un peu au-dessus de ça, cette tentation-là dont tu parles, les gens glissent assez facilement, puis là, tu te rends compte que finalement, pour être doyen d'une faculté, ce qui est somme toute pas, je veux dire, t'es pas élu comme premier ministre ni comme député, c'est quand même juste être doyen malgré que c'est quand même une fonction respectable, c'est correct. Là. Mais tu te rends compte qu'on peut, ça peut descendre, le niveau peut descendre assez bas pareil.
Oui, mais il y a deux grosses différences. La première, c'est que des institutions comme celle du doyen, c'est pas des institutions dans lesquelles on est forcé de collaborer. Le gouvernement, on est obligé de se plier aux soins du gouvernement. En fait, on n'est pas obligé, mais éventuellement, si on décide de refuser, il y a quelqu'un qui va venir avec, à la porte avec une petite enseigne.
Je te dirais que de manquer mes games de baseball parce que je ne veux pas présenter mon passeport, je ne me sens pas pire obligé de présentement.
Ben effectivement, l'idée, c'est que techniquement, quand l'affaire de doyen, tu n'es pas obligé de participer à l'activité de l'organisation d'une université, mais par contre, quand le gouvernement décide que tu payes 1% de plus d'impôts pour que ça aille à financer X ou Y, même si tu as voté contre, tu n'as pas de grand choix dedans, tu n'as pas de chance de exit. L'autre chose aussi, c'est que je n'ai jamais dit, quand tu disais, je te dis, je me prive, je me refuse l'incitation de pouvoir céder. C'est parce que je le sais que ça se passe au quotidien. L'idée, c'est que si ça ne peut pas disparaître, tu devrais éviter le plus possible les situations dans lesquelles tu peux céder. C'est pour ça que je dis, tu ne peux pas te débarrasser du politique. C'est pour ça que ce qu'il faut, c'est des règles du jeu qui t'imposent, par exemple, des pénalités importantes si tu agis de mauvaise manière. C'est pour ça que je dis, par exemple, moi, quand un de mes collègues, en fait, c'est une politique que j'ai. Si jamais quelqu'un écoute et qu'il arrête de faire son doctorat en économie et qu'il venait travailler avec moi, si tu me parles de politique pendant l'entrevue, moi, je termine l'entrevue. Je l'ai déjà dit, moi, les candidats qui me disent qu'ils veulent faire de la politique. Oui, on en a eu un il y a 2 ans quand j'étais à King's. Un gars très gentil, mais il m'a dit qu'il a carrément dit presque ouvertement qu'il voulait faire de la politique. Je n'ai pas terminé l'entrevue, mais j'ai dit à mon collègue, malgré que ce qu'il fait est intéressant, je ne peux pas lui faire confiance. Parce que ce qu'il m'a dit, c'est que le jeu politique est intéressant pour lui. Pas comme objet d'étude, mais comme objet dans lequel il aimerait participer. Ce qui me fait dire, est-ce que je peux faire confiance à sa recherche? Est-ce que je peux faire confiance à ses résultats? Est-ce que je peux lui faire confiance comme lorsqu'il va rencontrer des incitations qui pourraient l'amener en conflit? Je refuse, puis j'impose. Donc, mon comportement, c'est d'imposer un coup aux autres chercheurs qui font de la politique, même si parfois la politique, parce que le gars, je vais être honnête, il était techniquement de la politique qui se rapprochait de la mienne. Puis malgré ça, j'ai dit non, si tu es un académique, tu es un académique avant tout. Mais ça, c'est des choses, c'est des normes sociales. Des normes sociales, ça fait partie des règles du jeu. Les règles du jeu déterminent les contre-fous qui limitent l'environnement dans lequel le politique se contient et peut donc être contenu peut-être aux tâches dans lesquelles le politique a vraiment un avantage ou est vraiment clairement un remplaçant à la société civile ou au marché que le marché et la société civile ne pourraient pas produire. Donc, non, c'est vraiment important que le chercheur s'exclue le plus possible du politique.
J'élargis ça, puis c'est pas grave si on déborde un peu parce qu'officiellement, je vais couper ça, puis on va être dans la partie juste pour le monde sur Patreon. Là. Mais Tu sais, la réflexion qu'il y a un peu derrière la sélection d'un jury, par exemple, lors d'un procès, c'est qu'on fait une sélection aléatoire, en tout cas, on fait un tirage au sort, si on veut. Puis là, ben, on voit si les candidats correspondent, tu sais, s'ils n'ont pas de biais trop importants pour faire partie du jury. Puis le but derrière ça, c'est un peu d'exclure les gens qui voudraient absolument faire partie du jury pour toutes sortes de motifs. Mais je me souviens, il y a quelques années, il y avait un gars en France qui faisait assez de millage avec cette idée-là. Il disait, puis là, je sais qu'on est dans la fiction pure et simple, mais lui, il disait qu'il faudrait étendre le processus qu'on voit, par exemple, dans la sélection d'un jury à plein d'autres affaires. Comme par exemple, les politiciens, là, en fait, on ne devrait jamais choisir de politiciens qui veulent faire de la politique, mais on devrait les piger au sort dans un chapeau, façon imagée de parler, comme on fait pour un jury, parce que le hasard, en fait, va faire mieux les choses que la volonté des gens qui veulent absolument se rendre là. Je ne sais pas si tu as une idée auquel tu as déjà réfléchi.
Oui, j'ai déjà pensé à ça, puis j'ai toujours une certaine séduction. J'ai toujours senti séduit à ça. Il y avait Bill Buckley qui disait « I would much rather be governed by the 400 people in the Boston phone book than the 400 faculties of Harvard College. » Et à chaque fois, je pense à ça, je me dis, oui, j'aimerais probablement que l'aléatoire est quelque chose que je trouve un peu attrayant, mais ça ne respecte pas vraiment ce que je pense au plus profond de mes tripes. Ce qui compte, c'est de contenir la sphère du politique. Mm-hmm. Ce n'est pas juste que tu ailles les bonnes personnes. Le point, c'est que ce n'est pas qu'on veut des gens plus qualifiés, ce n'est pas qu'on veut des gens qui sont parfaits. C'est que tu veux un système dans lequel même la mauvaise personne est obligée de faire la bonne chose. Puis ça, ça va au-delà des individus. C'est pour ça que c'est les règles du jeu qui comptent, que tu te soucies vraiment des incitations qui entourent le jeu politique, qui contraignent, qui attachent les mains des politiciens, puis qui les forcent à se maintenir dans les endroits dans lesquels tu as des hauts niveaux de consensus à propos de l'intervention de l'État ou de l'action de l'État pour qu'au minimum, tu peux dire ouais. « fine ». Est-ce que je pense que c'est idéal? Non. Est-ce qu'il existe une meilleure alternative? Non, pas vraiment. T'sais, les quatre étapes de mon raisonnement, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que l'État fait quelque chose pour l'empêcher déjà? Est-ce que l'État est capable de solutionner le problème? Tu te rappelles ces quatre étapes-là? Ben là, tu es là comme « ouais, ben, ça répond aux critères dans lesquels c'est passable ».